BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Pour cette dernière émission de la saison, on va se poser des questions philosophiques. Travail hybride, humain au centre et confiance. Est-ce que le travail de demain, ça serait pas une utopie? C'est ce qu'on va demander à Mathilde Lecoz, c'est la DRH de Mazars. On va parler du management par les talents. Arrêtez de vous intéresser à vos faiblesses, c'est du temps perdu. Misez plutôt sur vos forces. On va en parler avec Anne Weber, elle est fondatrice de In Men We Trust. Et puis la ville du quart d'heure, comment ça marche quand on a tout à proximité? C'est la question qu'on va poser à Carlos Morano, il est urbaniste et chercheur à la Sorbonne. Happy Boulot le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot le mag. L'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Mathilde Lecoz, DRH de chez Mazars. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous connaissez très bien Mazars, ça fait 16 ans que vous y êtes, mais ça fait que 3 mois que vous êtes DRH. Mazars, c'est un cabinet de conseil dans l'audit, la fiscalité et le conseil. Moi, je dis souvent que c'est comme KPMG, mais en un peu plus branché, voilà, à peu près pour la définition. 42 000 professionnels dans le réseau, 90 pays. Vous avez réalisé une étude sur les attentes des Français vis-à-vis de l'entreprise post-crise, et les Français, alors moi ça m'a assez surpris, non seulement ils ont l'air d'adorer leur entreprise, mais en plus ils lui demandent mais beaucoup, beaucoup de choses. Ça vous a surpris les réponses que vous avez posées aux Français sur leur entreprise ?
Moi j'ai été agréablement surprise de la vision très positive qu'ils avaient de l'entreprise et sur le rôle majeur qu'elle avait joué pendant la crise, même si voilà, ils sont en attente à la sortie, en supposant qu'on est en train d'en sortir, sur est-ce qu'on allait en fait remplir nos engagements. Après, ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est les trois enjeux majeurs sur lesquels ils nous attendent. Le premier, c'est la conciliation entre la rentabilité et la responsabilité, ce qui semblait pas du tout convergent en fait avant, et alors que là la majorité des Français dit bien évidemment on peut associer les deux et il faut.
Donc c'est qu'ils veulent que l'entreprise se demande quel est son impact sur le monde.
Qu'elle soit et rentable et responsable et qu'on peut concilier les deux, les intérêts économiques et aussi les intérêts pour la société, pour le monde, l'environnement, et que c'est totalement faisable, et ils en sont assez confiants en la matière. Donc ça c'est assez nouveau, parce qu'avant c'était vraiment le débat de mais non, la rentabilité ça pas avec la responsabilité. Après, on va voir sur quoi ils nous attendent. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est... l'attente, c'est sur la... J'ai trouvé ça formidable, à vrai dire. C'est sur la culture managériale. Là, c'est plutôt, je pense, le constat qu'on n'est pas encore assez bon en la matière et que c'est clairement le rôle des entreprises de mettre en œuvre une politique managériale adéquate, orientée autour de l'humain, parce que je pense que c'est ce dont ont souffert quand même une partie des collaborateurs pendant la crise, faute de contact humain. On a beaucoup digitalisé les process, on a mis des outils en place, etc. Mais on voit que si les comportements humains ne sont pas là, ça se passe pas bien.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que moi, j'ai l'impression que plus on répète qu'on veut mettre l'humain au milieu, moins on voit ce que ça veut dire.
L'humain, pour moi, c'est tout ce qui va être qualité de vie au travail, bien-être. Mais je dirais autour de la qualité de la relation. Donc, alors, on va utiliser encore des termes, je sais, qui sont souvent très utilisés, comme la bienveillance, la confiance, parce que je pense qu'on les utilise beaucoup. Mais après, dans les faits, on les met pas toujours en œuvre. Je prends un exemple. Voilà, le management par la confiance, c'est-à-dire l'autonomie. Je vais pas te contrôler tout le temps. Je vais pas tout le temps te demander où t'en es. Et je pense que le travail à distance met en avant soit les forces, soit les lacunes des managers en la matière. Ont-ils réellement confiance ou non en leurs collaborateurs quand ils ne sont pas avec eux? Et c'est là-dessus que nous attendent les Français pour mieux vivre le travail en entreprise.
Donc c'est les deux choses, c'est se faire confiance, prendre en considération l'humain.
Ouais, il y a la collaboration, c'est-à-dire je pense que pendant la crise, beaucoup de salariés ont été mis au cœur des débats de l'entreprise. Il a fallu beaucoup communiquer, être transparent, rassurer, dire où on allait. On a beaucoup plus communiqué en majeure partie. Et donc, ils veulent que ça perdure, en fait. Les salariés, ils ont envie de contribuer aux décisions de l'entreprise. Ils ont envie, en fait, d'avoir une relation d'adulte à adulte et pas être infantilisé en disant, ça, c'est les sujets du top management, de la direction, et ça regarde pas les
C'est-à-dire
salariés.
C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on leur pose régulièrement la question, même sur la stratégie de l'entreprise.
Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, je l'entends, pour s'engager dans un projet d'entreprise, encore faut-il y adhérer. Et aujourd'hui,
alors, parce que quand on leur demande s'ils veulent être chef, s'ils veulent avoir des responsabilités, ils disent non, merci, c'est bon.
Moi je le retrouve pas. Je pense que de plus en plus, ils ont conscience de ce que ça demande d'être un bon manager. Et en fait, je pense que ça n'est pas fait à tout le monde de manager, d'aimer le manager et de bien manager. Et je pense que plus ça va, plus ils ont conscience des responsabilités qui incombent aux dirigeants, de ce qu'on demande à un manager. Et il y a des gens qui sont très lucides en disant « c'est peut-être pas pour moi ».
Mais c'est-à-dire que la crise, des gens pendant la crise, engagés. Tout le monde s'est dit « finalement, être chef, c'est dur, j'aurais pas aimé être à la place de mon chef, j'ai trouvé que là, il avait été bon ».
Je pense que oui, c'est dur. Être courageux, c'est dur. Être transparent, c'est dur. Avoir une vision, garder un cap, rassurer. En fait, on doit donner aux autres pour les embarquer. C'est extrêmement dur. Et alors souvent, on critique, mais on n'aurait pas envie d'être à la place du dirigeant ou du manager qui endosse ces responsabilités-là. Et je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience de la difficulté des responsabilités qui incombent à ces personnes-là. Et de dire, en fait, c'est un job qui est exigeant aussi. Est-ce que je suis prêt à le prendre ou non ? Mais je pense qu'il y a une vraie mise en lumière de ce qu'on attendait et des difficultés que pouvaient aussi rencontrer.
Mais ce qui veut dire que pour vous, en tant que DRH, un salarié qui dirait, moi, être manager, non, je le sens pas, je le vois pas comme évolution, c'est pas un problème ?
Non, je pense que moi, je trouve ça assez sain. Parce qu'en fait, justement, aujourd'hui, je constate que tout le monde prend le job sans mesurer ce que c'est réellement. Si on regarde, souvent le management, c'est une place dans un organigramme, c'est limite un attribut statutaire de réussite. Plus j'évolue, plus j'ai une grosse équipe qui me dépend. Oui, mais on pense toujours l'équipe au service du manager, alors moi c'est ma conviction, mais je pense que le manager est au service de ses équipes, il doit aimer les gens, il doit aimer aider. Et donc ça, c'est passer du temps, c'est être aussi en position inconfortable, parce que c'est vraiment un job extrêmement difficile.
Mais c'est-à-dire que celui qui veut être chef, en fait, il n'est pas fait pour être manager. Celui qui a l'envie du pouvoir, celui qui a l'envie de diriger, franchement, il n'est pas très bon à ce poste-là.
Non, parce que je pense que même on doit être plus agile dans nos organisations, être dirigeant. Je pense qu'on peut avoir plusieurs rôles. Il va y avoir les experts, il va y avoir les managers, il va y avoir les dirigeants qui portent le leadership, les décisions, le cap. Et en fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de créer peut-être des nouvelles organisations où en fait, on va faire combiner ces différentes compétences incarnées par différentes personnes.
Mais ça, c'est dur parce qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir une personne qui incarne à la fois le leadership, les idées, qui donne envie de travailler et qui en plus s'intéresse aux gens. Et en fait, non, vous dites, n'hésitez pas à démultiplier les compétences.
Oui, parce que je pense que pendant longtemps, on a voulu que la même personne incarne tout. Je pense qu'on ne peut pas être bon partout. On a des talents et puis des points faibles. Tout le monde, personne n'est parfait. Et de vouloir porter cette perfection chez un individu, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que ça n'engage pas les jeunes. C'est trop. Parce qu'en fait, il y a une recherche de la normalité aussi. Pour se projeter, j'ai envie de trouver un peu de normalité et puis voir les failles, voir les points forts et donc finir la perfection, en fait. Ça fatigue tout le monde.
C'est intéressant ce que vous dites parce que sur les talents, les personnes qui inspirent, aujourd'hui, on a besoin de gens qui ont des failles. On a beaucoup parlé des femmes inspirantes où il y avait des modèles comme la patronne de Facebook qui a 4 enfants, qui est partout. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, en fait, qu'elle gère tout. Non, on a besoin aujourd'hui de modèles de gens qui sont imparfaits.
Ah, complètement. J'ai encore un exemple en date hier avec mon équipe où il y a un moment, moi aussi j'ai mes limites, je le dis. En fait, ça a rassuré en mode tu nous rassures, toi aussi. En fait, ça fait peur parce que aujourd'hui, quand on a envie d'avancer, on a envie de se projeter, de dire est-ce que moi aussi je peux y arriver ? Et donc, plus on voit quelque chose de parfait, plus ça nous renvoie à nos propres imperfections. Mais si c'est ça qu'il faut faire pour réussir, alors moi je suis nulle ou moi j'y arriverai jamais. Et donc, c'est très sain de pouvoir exprimer. Alors, l'idée, c'est pas de dire toute la journée je suis nulle et tout, mais de partager cette part un peu de vulnérabilité qui, aujourd'hui, je pense, apporte juste de la normalité. Et la normalité, c'est extrêmement sain. Et surtout, ça crée de l'engagement chez les plus jeunes.
C'est très intéressant ce que vous dites. On sort du manager hors norme, du chef qui ne ressemble à personne, qui d'ailleurs parfois est charismatique et complètement dingue, et qui impose son propre caractère sur tout le monde. C'est terminé, ça.
C'est terminé. Je pense qu'en plus, aujourd'hui, il y a plusieurs sites de management. On parle beaucoup de sens. Derrière le sens, il y a aussi l'alignement. Les gens ont besoin d'être eux-mêmes, en fait, et pas de jouer un rôle. Ça, c'est extrêmement fatigant. Et de pouvoir avoir cette chance de pouvoir être soi-même, et donc avec sa part de force et de faille, ça permet aussi d'être aligné. Je ne joue plus un rôle, je suis moi-même. C'est pour ça que je réussis, avec tout ce que ça comporte. Et je pense que ça donne voix au chapitre, aux individus d'être eux-mêmes. Et d'arrêter de jouer ce jeu de rôle, en fait, en entreprise, qui est nuisible, en fait.
Vous n'avez pas eu l'impression que les salariés, les Français, en demandent trop, du coup, à l'entreprise ? Ça fait beaucoup d'attentes.
Franchement, ils en... Ils en demandent beaucoup. C'est vrai qu'on pourrait dire, mais où est la limite hein, entre l'employeur et l'employé voilà. Et est-ce qu'on doit s'immiscer ? Parce que parfois, il y a des choses qui vont très dans... limite dans la sphère personnelle, en fait. Et d'ailleurs, pendant la crise, on était très, très questionnés, attendus. Que fait-on pour m'aider au quotidien, avec mes enfants, avec ceci et cela ? Je pense que... Moi, ça ne me... C'est surprenant et en même temps, si on prend le recul, le travail est quand même une dominante extrêmement... C'est pas la seule, mais je pense que c'est une dominante importante de la construction des individus. Et donc, l'entreprise a une responsabilité aussi, dans, un peu citoyenne, mais déjà en son sein, sur quelles valeurs elle veut mettre en œuvre, quels sont ses principes de vie et de vie en collectif. Et donc, quelque part...
cette question de responsabilité,
ouais, elle est importante plus et elle est plus importante.
Dernière question, voilà. Mathilde, vous avez travaillé avec Laurent Chouin, DRH emblématique de Mazars. Il est sympa en vrai ou pas ?
Il est sympa, oui.
Il fait pas semblant.
Il est sympa. Non, il fait pas semblant.
C'est une vraie personne sympa. Merci beaucoup, Mathilde Lecaux, d'avoir été avec nous, DRH de Mazars. On va continuer ensemble à parler des talents. Vous le disiez, ça change. Est-ce qu'il faut s'améliorer, axer sur ses faiblesses ou uniquement regarder les forces ? C'est tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better together.
Et on va parler du management par les talents avec Anne Weber. Bonjour, vous êtes fondatrice d'In Men We Trust. Vous essayez de faire de nous, simples mortels, des hommes et des femmes meilleurs, en tout cas meilleurs dans leurs équipes, meilleurs dans leur management. Est-ce que ça sert à quelque chose d'essayer d'arranger ses faiblesses ou ça ne sert strictement à rien ? C'est un puits sans fond.
Je dirais que c'est un puits sans fond. Le management par les talents que l'on déroule en fait en entreprise, dans des grands groupes, permet en fait de réconcilier l'individu avec son unicité. Vous, moi, on est tous finalement extraordinairement uniques. Et quand on regarde les outils qu'on utilise, on arrive à trouver des profils similaires avec une chance sur 400 000 milliards d'individus. Donc on voit bien qu'on est tous très uniques. Mais du coup, il y a des choses qu'on va faire naturellement bien, nos talents naturels. Certains seront doués d'une bonne mémoire, d'autres auront la capacité de ressentir les émotions des autres. Certains auront une vision hélicoptère et stratégique, etc. Je pourrais faire une liste extrêmement longue de ces talents humains. Et chaque individu, du coup, quand il travaille sur ses talents, quand il investit sur ce qu'il fait très bien, va avoir de bons résultats. Mais nos points faibles, finalement, c'est quoi ? La plupart du temps, ce n'est que le revers de la médaille d'un talent qu'on ne maîtrise pas.
Donc ça ne sert à rien d'investir sur ses faiblesses, vaut mieux investir sur ses talents. Pourtant, dans l'entreprise, quand on vous fait des reproches, on vous dit vous avez une mauvaise communication, vous n'êtes pas assez, vous êtes en retard. Enfin, on appuie là où ça fait mal.
Tout à fait, et c'est bien, comment dire, parce qu'on est vraiment dans un monde où on va regarder finalement une certaine perfection. L'individu normal devrait se comporter comme ça, le leader parfait est comme ça. Alors qu'en fait, je vais vous donner des exemples de revers de médaille, des exemples d'imperfection. On connaît tous un râleur ou des râleurs. Si on lui dit « râle moins », ça ne va pas être très utile. Si on lui explique qu'il a une habileté naturelle à identifier les problèmes et que pour lui, c'est tellement quelque chose qui ne crée pas de stress qu'il en parle de façon simple, pour lui, un problème, c'est que quelque chose qui attend d'être résolu. Une fois qu'on donne cette clé, le râleur râle beaucoup moins. À bon escient, il saura sortir le bon problème au bon moment, par exemple.
Et puis, il est super fort en problème.
Il y a des gens super forts en problème. Être en retard. Je suis, par exemple, quelqu'un qui est souvent très en retard, comme beaucoup d'autres. Quand on est un gros bosseur et qu'on adore finir des tâches, par exemple, si on n'a pas compris que si on commence une tâche un peu longue avant d'aller en plateau pour vous ou avant de commencer une réunion pour d'autres, on va avoir le besoin irrépressible de la finir. C'est des choses toutes simples, mais comprendre son mode d'emploi à soi, c'est déjà vraiment pouvoir aller beaucoup mieux au travail puisqu'on peut venir tel que l'on est. Souvent, on dit qu'on vient au travail, on cherche du sens, on ne va pas bien. En fait, tout l'enjeu du management par les talents, c'est de redonner à chacun son mode d'emploi pour que chacun puisse comprendre comment utiliser son plein potentiel sans avoir d'incompréhension avec les autres, en fait.
Et on a tous des talents.
Tous. C'est la très bonne nouvelle. On est tous absolument uniques et tous absolument talentueux. Tout l'enjeu et ce qui fait la différence derrière, c'est la compréhension que l'on a de ses talents et puis les efforts que l'on va mettre dans ses talents au quotidien. Un exemple parmi beaucoup d'autres talents, mais si vous avez par exemple une bonne mémoire, certains auditeurs auront peut-être une bonne mémoire, ils se reconnaîtront, une mémoire sélective, hein, ils n'enregistrent que ce qui les intéresse. Eh bien, par exemple, si on a une bonne mémoire, on peut faire comme le champion de Scrabble néo-zélandais qui, à force de travail, a réussi à être champion du monde de Scrabble dans sa langue, en anglais, mais il s'ennuyait tellement qu'il a décidé d'apprendre le dictionnaire français et il est maintenant champion du monde dans une langue qu'il ne parle pas, le français. Alors c'est un peu exceptionnel, tout le monde ne veut pas devenir champion du monde de Scrabble, mais par exemple avec cette même bonne mémoire, dans les gens que l'on a accompagnés, on peut retrouver un champion d'aviron. Lui, ça lui sert sur les bassins à haut niveau à savoir où en est son bateau de façon très facile et à donner l'information à ses coéquipiers. Parce qu'avant, il fallait que tout le bateau se retourne. Là, l'information est précise. Il sait exactement où est tel arbre, tel élément. Il dit on est au 500, plus personne ne se retourne. On peut gagner quelques centièmes comme ça. Mais on l'a retrouvé aussi chez un colonel qui me disait, mais oui, tout à fait. Quand j'étais jeune et quand j'étais sur le terrain, ça me permettait de mémoriser les cartes d'état-major et de pouvoir redonner à bonne info, à bon escient, les infos à mes troupes. Et on a sauvé des vies comme ça. Mais on a aussi un sommelier, dans les gens qu'on connaît, champion du monde, qui a le plaisir de redonner le bon vin au bon moment pour la bonne personne.
Tout ça, donc c'est la mémoire, ça peut servir à plein de choses différentes. Mais est-ce qu'il faudrait, avant la constitution d'une équipe, faire le test de chacun, savoir exactement associer des talents ? C'est jamais ce qu'on fait dans une équipe. On prend les gens qui sont là et on les met à travailler ensemble. On ne constitue pas une équipe de talents.
Alors chez nos clients, ils s'en servent ensuite, c'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent être intéressantes et inspirantes puisqu'on va repérer dans telle équipe, on peut avoir tel élément ou tel autre. Ça donne des informations également précieuses sur l'ADN d'une équipe ou d'un comité de direction. Quels vont être les talents en présence et donc du coup, comment se comporte en tant que groupe une entreprise.
Il ne faut jamais associer deux talents pareils ou c'est possible ou il faut forcément dispatcher les talents.
Non, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir des individus qui se connaissent. Le premier niveau des talents, en fait, c'est vraiment je me connais, je maîtrise mes talents et donc je sais comment interagir avec les autres. Ça, c'est la première clé. Avoir des gens qui ne connaîtraient pas bien leurs talents, ça ne serait pas forcément clé. Ensuite, tout l'enjeu, ça va être de mettre la bonne équipe pour les bons besoins, en fait. Si on a, à redresser une entreprise compliquée avec beaucoup de problèmes et beaucoup de sociologie des organisations dedans, eh bien, c'est plus intéressant d'avoir des gens qui auront cette appétence-là. Si on est sur une petite pépite qui a beaucoup de potentiel et qui doit aller vite, ce sera un autre profil. Mais chacun de nous a vraiment une combinaison de grands talents. Donc, on ne peut pas réduire l'individu à quelque chose comme ça.
Pour établir la liste des talents, il faut répondre à un certain nombre de questions qui se répètent, qui sont structurées par l'Institut Gallup. Est-ce que vous avez des gens qui sont extrêmement surpris par la révélation de leurs talents ou globalement, ils savaient ? Alors, ils n'osaient pas peut-être.
Oui, alors le test que vous citez est un test parmi d'autres, mais c'est vrai qu'il est très précis, on s'en sert régulièrement, on a le plaisir du coup d'être certifié et d'être les premiers en France certifiés sur l'outil. Les surprises sont rares en fait, ça peut plutôt être des gens qui ne l'avaient pas repéré, qui ont besoin d'éléments complémentaires ou de se l'approprier, mais non, les gens s'y reconnaissent, vraiment clairement.
Merci beaucoup Anne Weber d'être venue nous voir dans Happy Boulot, le mag. Investissez sur vos talents, laissez tomber les faiblesses, vous verrez c'est beaucoup moins fatigant. On va parler désormais de la ville du quart d'heure.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et on va parler urbanisme dans Happy Boulot, le mag. On est avec Carlos Moreno, chercheur à la Sorbonne, à la chaire ETI, entrepreneuriat, territoire et innovation. Bonjour Carlos Moreno.
Bonjour.
Vous avez publié
Merci
Vie urbaine. Avec plaisir, vous avez publié « Vie urbaine et proximité » aux éditions de l'Observatoire. La crise sanitaire a bouleversé énormément de choses. Le salarié, notamment, a arrêté de bouger, de prendre les transports en commun pour aller loin. Est-ce qu'on va revenir en arrière ou c'est terminé? On n'acceptera plus des temps de déplacement aussi longs qu'avant?
J'ai cette conviction que le Covid a aujourd'hui fait vraiment bouger les lignes. Et aussi bien chez les salariés, mais que chez les employeurs qui ont pris conscience des parts et d'autres que travailler autrement était possible, tout au moins pour éliminer beaucoup de déplacements inutiles et aller vers une meilleure qualité de travail qui est finalement liée à une qualité de vie dans laquelle moins de déplacements nous donnent plus de possibilités de mieux travailler, mais de mieux aussi vivre chacun dans notre propre environnement familiaux et sociaux.
Vous avez théorisé la ville du quart d'heure. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de 15 minutes? C'est le maximum qu'on peut désormais s'autoriser?
Je dirais que c'est surtout l'idée à reprendre de la proximité heureuse, que ça soit 10, 15 ou 20, 30 minutes, la question c'est moins du temps que de notre capacité à revivre dans une proximité qui, elle, d'une manière décarbonée, donc à pied ou à vélo, c'est pour ça que je parle d'un quart d'heure dans des zones à très haute densité, je parle d'une demi-heure dans des zones à moyenne et faible densité, pour accéder à tout ce qui peut nous satisfaire dans notre vie de urbain ou de territorial. Donc, habiter et accéder au travail de manière décentralisée, et accéder à ses courses, accéder aux soins de santé, à l'éducation et à la culture, au loisir avec la nature, la biodiversité, l'eau. Et c'est indispensable parce que nous sommes confrontés au changement climatique qui, lui, il est nourri par les CO2 d'origine urbaine également, par nos propres transports. Donc, il est urgent d'échanger nos modes de vie. Et finalement, donc, avec la ville du quart d'heure, nous avons une possibilité de mieux utiliser tout ce que nous avons construit, qui est à nos dispositions, donc à côté de chez nous. Il faut juste que ça soit utilisé autrement. On me disait il y a 5 ans, quand j'ai exposé ce concept pour la première fois, ça se fera jamais, c'est une utopie, parce qu'on ne travaillerait jamais près de chez soi. Et bien, 5 ans après, avec le Covid, on montre qu'on peut quand même travailler autrement. Et à ce moment-là, dans ces quarts d'heure, et ben, on aura accès à beaucoup de choses qui font que la mobilité, elle ne soit pas sous contrainte, obligée, mais soit plutôt un choix.
Alors, où est-ce qu'on va travailler dans votre ville du quart d'heure? Est-ce qu'on reste chez soi? Est-ce qu'on va dans un tiers-lieu? Est-ce que les immeubles vont se restructurer en mettant en place, je ne sais pas, à la place du local poubelle, désormais des bureaux? Et qu'est-ce que ça va changer?
Absolument, un peu de trois. Et ce qui va changer, c'est que nous allons assister à ce que j'appelle les travaux décentralisés. Le travail décentralisé, c'est la mort de ces grands tours dans lesquels nous allions tous les matins, pour ceux qui sont dans cet univers de service, ou en général, traverser une ville donc, pour passer sa journée. Et nous allons assister à un travail décentralisé dans lequel on va mélanger. Donc, il y en a peut-être quelques heures qu'on pourra avoir chez soi, mais il faut faire attention à que le travail chez soi ne soit trop invasif par rapport à notre vie privée. Je pense qu'on va assister à des tiers-lieux que j'appelle donc de corporate working, des lieux de travail de proximité. En Italie, ils s'appellent les lavoro prossimo, des lieux dans lesquels on va accueillir soit des entreprises elles-mêmes qui décentralisent, qui commencent à avoir des lieux de proximité connectés par nouvelles technologies aux services centraux, mais aussi, et vous avez parfaitement raison, on va avoir une restructuration des lieux dans lesquels nous habitons et qui sont construits pour faire de la mixité qu'on appelle donc fonctionnelle. Donc, on va habiter, on va avoir un peu de lieux pour travailler, on va avoir aussi des supérettes, on va avoir des lieux culturels, on va avoir des lieux de sport. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers un mix fonctionnel qui va être cadencé avec un autre rythme de vie, et des moins de voitures, plus de place pour les piétons, plus de végétalisation, et plus des activités à l'air libre quand il fait beau, plus d'activités qui permettent donc de créer localement de nouveaux business. Et je pense que c'est vraiment un mode de vie nouveau qui s'ouvre avec cette voie de la ville des quarts d'heure, de la ville des proximités, de la proximité heureuse.
Donc l'immobilier tel qu'on le connaît aujourd'hui, très séparé, immobilier de bureau, immobilier résidentiel, immobilier de commerce, n'existera plus. Ça sera tout ça mixé dans un seul ensemble.
Oui, tout à fait. C'est la mort de l'immobilier vu comme des... d'une part les activités totalement différenciées, mais c'est déjà le cas et on voit donc de grands acteurs de l'immobilier qui se sont lancés dans cette voie-là et les exemples aujourd'hui sont vraiment nombreux de comment cette transformation urbaine est en train de se produire sous nos yeux. Elle est irréversible et c'est une bonne chose pour nous tous et nous toutes.
Qu'est-ce qu'on va faire de nos campus et de nos grandes tours alors?
Aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de Paris, la Défense, il y a un travail de concertation, d'ailleurs j'étais sollicité également, pour réfléchir sur comment ces mètres carrés vont être réorientés. Et vous savez, quand après la pandémie, nous sommes encore à moins de la moitié d'utilisation de mètres carrés de la Défense. Ça veut dire qu'il faut maintenant qu'on trouve de nouveaux usages. Et donc, je pense qu'il va y avoir de nouvelles activités, des types culturels, des activités également d'accueil des start-up, des associations. Je pense qu'on va avoir un beau brainstorming pour que tous ces tours prennent donc un autre chemin et qui inévitablement aujourd'hui est lancé avec le fait qu'on va travailler peut-être probablement entre 2 ou 3 jours en dehors de ces grands tours et dans la continuité de ce qui s'est passé avec le Covid. Donc c'est passionnant parce que c'est un nouveau chantier pour réimaginer la vie dans la ville, pour réimaginer l'usage donc de ces lieux, et ça va être donc une nouvelle source des changements comme on en a déjà connu d'autres. Hein. Donc vous avez Paris n'a jamais été aucune ville figée au travers de l'histoire. On a toujours donc été confronté à des transformations des usages qui nous ont amenés à que nos lieux soient différents. Donc c'est une très bonne chose parce que ça mobilise beaucoup de monde aujourd'hui à créer, imaginer de nouveaux écosystèmes de création de valeurs et d'usage des espaces urbains, que ce soit d'intérieur ou d'extérieur.
Merci beaucoup Carlos Moreno d'avoir été avec nous, urbaniste et chercheur à la Sorbonne de la chaire ETI Entrepreneuriat Territoire et Innovation. C'est la fin d'Happy Boulot Le Mag. On se retrouve à la fin de l'été, à la rentrée, pour parler encore management et vie de bureau. Je vous souhaite à tous un excellent été sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot Le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.